Chapitre 2e. Les explications de Théodore Béchou. Raoul Davenac bondit hors de son lit et empoigna Béchou à la gorge en proférant « J'avais ordonné qu'on me laissât tranquille et tu as le culot de me réveiller ?» Béchou protesta. « mais non, je te regardais dormir et je ne te reconnaissais pas. Tu es plus brun, d'un rouge foncé. Tu as l'air d'un type du midi. » « Depuis quelques jours, en effet. Quand on est de vieille noblesse périgourdine, on se doit d'avoir un teint de vieille brique. » Ils se prirent les mains affectueusement, charmés de se revoir. Ils avaient fait de si beaucoup ensemble que de formidables aventures. « Hein, souviens-toi, disait Raoul Davenac, souviens-toi du temps où je m'appelais Jim Barnett et où je dirigeais une agence de renseignement. Souviens-toi du jour où je t'ai barboté dans ton paquet de titres porteurs. Souviens-toi de mon voyage de noces avec ta femme. À propos, comment va-t-elle? Vous êtes toujours divorcé?
Toujours.
Ah, la belle époque.
La belle époque,
approuvait Béchou attendri. Et l'histoire de la demeure mystérieuse, tu t'en souviens?
Si je m'en souviens.
L'histoire des diamants escamotés sous ton nez.
Il n'y a pas 2 ans de cela,
reprenait Béchou, la voix larmoyante.
Mais comment m'as-tu retrouvé?
Comment as-tu su que j'étais Raoul Davenac?
Le hasard,
dit Béchou. Une dénonciation d'un de tes complices qui est parvenu à la préfecture et que j'ai intercepté. Davenac l'embrassa dans un élan spontané. Tu es un frère, Théodore Béchou, et je te permets de m'appeler Raoul.
Oui, un frère. Je te reborderai ça. Tiens, je n'attendrai pas une seconde de plus pour te rendre les 3 000 francs qui se trouvaient dans la poche secrète de ton portefeuille.
Ce fut le tour de Béchou de saisir son ami à la gorge. Il était hors de lui.
« Voleur, escroc, tu es monté dans ma chambre cette nuit, tu as vidé mon portefeuille, mais tu es donc un décrotable. »
Raoul riait comme un fou.
« Que veux-tu, vieille branche? On ne dort pas à la fenêtre ouverte. J'ai voulu te faire voir le danger. J'ai pris ça sous ton oreiller. Avoue que c'est drôle. »
Béchou la voix, gagné tout à coup par la gaieté de Raoul, et comme Raoul, il se mit à rire, avec colère tout d'abord, puis naturellement et sans arrière-pensée. « Sacré Lupin! « Tu seras toujours le même. Pas sérieux pour 2 sous. Tu n'as pas honte à ton âge.
Dénonce-moi. »«
Pas possible, » dit Béchou en soupirant.
« Tu t'échapperais encore. On ne peut vraiment rien contre toi. Et puis, ce serait dégoûtant de ma part. Tu m'as rendu trop de service.
Et je t'en rendrai encore. Tu vois, il a suffi de ton appel pour que je vienne reposer dans ton lit et boulotter ton petit déjeuner. » De fait, une voisine qui faisait le ménage de Béchou venait d'apporter du café, du pain et du beurre, et Raoul se faisait de confortables tartines et vidait la tasse. Ensuite, il se rasa, se lava, dehors, à même un baquet d'eau froide, et restauré, ragaillardi, lança dans l'estomac de Béchou un vigoureux coup de poing.
Vas-y de ton discours, Théodore. Sois bref et méticuleux, éloquent et sec, tumultueux et méthodique. N'oublie pas un seul détail et n'en donne pas un de trop, mais d'abord que je te regarde. »
Il le saisit aux épaules et l'examina.
« Toujours le même, tu n'as pas changé. Des bras trop longs,
une figure à la fois bonasse et revêche, l'air prétentieux et dégoûté.
Une élégance de garçon de café.
Vrai, tu as de l'allure.
Maintenant, Jaspine, je ne t'interromprai pas une fois. »
Béchou réfléchit et commença. « La demeure voisine.
Un mot, » dit Raoul. « À quel titre es-tu mêlé à cette affaire, comme brigadier de la sûreté ?»«
Non, comme familier de la maison depuis 2 mois, c'est-à-dire depuis le mois d'avril où je suis venu à Radicatel en convalescence, après une double pneumonie qui a failli. »«
Aucun intérêt. Continue. Je ne t'interroge plus. » »«
Je disais donc que le domaine de là-bas arrive. »«
Drôle de nom, »
s'écria Davenac.
« Le même nom que celui de cette petite chapelle juchée sur la côte près de Côte-Bec, et où va la barre, c'est-à-dire le flot. » Le mascaret, qui remonte la Seine 2 fois par jour et surtout à l'équinoxe. Là-bas arriva, ou plutôt, elle monte jusqu'à cet endroit, malgré la hauteur. C'est bien ça, hein?
Oui, mais ici, ce n'est pas proprement parlé la Seine qui remonte jusqu'au village. C'est la rivière que tu as peut-être remarquée, l'Aurel, laquelle va se jeter dans la Seine, et laquelle rebrousse chemin et déborde aux heures de marée, avec plus ou moins de violence.
Dieu que tu es lent,
dit Raoul en bâillant. « Donc, hier soir, sur le coup de midi, on va me chercher du manoir. »«
Quel manoir ?»«
Celui de la Barriva. »«
Ah, il y a un manoir ?»«
Évidemment, un petit château où habitent 2 sœurs. »«
De quelle congrégation ?»«
Hein ? » ?»«
Évidemment, tu parles de sœurs. Est-ce des petites sœurs des pauvres, des visitandines? Explique-toi.
Zut, impossible de rien expliquer.
Eh bien, veux-tu que je te la raconte, ton histoire, moi?
Tu m'arrêteras si je me trompe.
Mais je ne me trompe jamais, c'est un principe.
Le manoir de la Bariva, qui faisait partie autrefois de la seigneurie de Bam, a été acheté au milieu du XIXe siècle par un armateur du Havre. Son fils, Michel Montessieu, y fut élevé, s'y maria, y perdit coup sur coup sa femme et sa fille, et resta seul avec deux petites filles, Bertrande et Catherine, les sœurs actuelles. Désemparé, il s'installa à Paris, mais continua cependant de venir deux fois par an, durant un mois aux environs de Pâques et un mois à l'occasion de la chasse. L'aînée de ses petites filles, Bertrande, épousa de bonne heure un monsieur Guersin, industriel à Paris, ayant de grosses affaires en Amérique. Nous sommes d'accord.
D'accord.
La petite Catherine vivait donc avec Michel Montessieu et un domestique encore jeune, Arnold, très dévoué à son maître, monsieur Arnold, comme on l'appelait. Elle s'éleva et s'instruisit tant bien que mal, libre de toute entrave, un peu fantasque, exubérante et rêveuse, passionnée d'exercice et de lecture, ne se plaisant qu'à la Bariva, se jetant à la nage dans l'eau glacée de l'Aurel, pour se sécher dans l'herbe, les jambes en l'air, contre un vieux pommier. Son grand-père l'aimait beaucoup, mais bizarre, taciturne, ne s'occupait que de sciences occultes, de chimie et même d'alchimie, disait-on. « Tu me suis bien ?»
Parbleu.
Or, il y a 20 mois, à la fin de septembre, le soir du jour où ils avaient quitté la Normandie après leur séjour ordinaire, le grand-père Montessieu mourut subitement dans son appartement de Paris. L'aînée, Bertrande, se trouvait à Bordeaux avec son mari. Elle revint précipitamment et les deux sœurs vécurent ensemble. Le grand-père avait laissé moins de fortune qu'on ne croyait et aucun testament. Quant au domaine de la Bariva, on l'abandonna. Les grilles et les portails du manoir étaient fermés à clé. Personne n'y pénétra plus.
« Personne, » dit Béchou.
C'est cette année seulement que les deux sœurs résolurent d'y passer l'été. Monsieur Guersin, le mari de Bertrande, revenu en France, puis reparti, puis revenu, devait les rejoindre. Elles emmenèrent Monsieur Arnold et une femme de chambre cuisinière, qui était au service de Bertrande depuis plusieurs années. Au village, elles engagèrent provisoirement deux fillettes du pays, et tout le monde se mit à travailler, pour mettre le manoir en ordre et nettoyer le jardin, qui était devenu un véritable paradou.
Voilà, mon vieux, nous sommes toujours d'accord.
Béchou avait écouté Raoul d'un air stupide. Il reconnaissait la substance même des renseignements recueillis par lui à ce propos et résumés par lui sur un cahier qu'il avait glissé dans un placard de sa chambre parmi des liasses de vieux dossiers. Au cours de sa visite nocturne, Raoul d'Avenac avait donc eu le temps de découvrir et de lire ces pages.
« Nous sommes d'accord, » bredouilla Béchou, qui n'eut pas la force de protester.
« En ce cas, achève, » dit Raoul. « Ton cahier secret ne souffle pas un mot de la journée d'hier. » Disparition de Catherine Montessieu, assassinat de je ne sais pas qui, achève, mon vieux.
Eh bien voilà, dit Béchou, qui avait du mal à se reprendre.
Voilà. Tous ces événements tragiques se sont déroulés en quelques heures hier. Mais il faut d'abord que tu saches que le sieur Guersin, le mari de Bertrande, était revenu la veille. Un type de bon vivant que ce Guersin, un homme d'affaires, bien d'aplomb, solide, éclatant de santé. La soirée à laquelle j'assistais avait été fort gaie. Et Catherine elle-même, malgré son humeur noire et certains incidents, plus ou moins graves, qui l'ont bouleversée depuis quelque temps, Catherine elle-même avait ri de bon cœur. Je rentrais me coucher vers 10h30. La nuit, rien. Aucun bruit suspect. C'est le matin seulement, sur le coup de midi, que Charlotte, la camériste de Bertrande Guersin, se précipita chez moi en criant « Mademoiselle a disparu ». Elle a dû se noyer dans la rivière.
Raoul d'Avenac interrompit Béchou.
Supposition peu vraisemblable, Théodore. Tu m'as parlé d'elle comme d'une nageuse accomplie.
Sait-on jamais? Une défaillance, quelque chose qui vous accroche?
Toujours est-il que, arrivant au manoir, je trouvais sa sœur affolée, son beau-frère et le domestique Arnold tout agités, et que l'on me montra au bout du parc, entre deux rochers où elle a l'habitude de descendre dans l'eau, son peignoir de bain.
« Cela ne prouve pas.
Cela prouve tout de même quelque chose. Et puis, je te l'ai dit, depuis plusieurs semaines, elle était absorbée, anxieuse. »
Et alors, inévitablement, l'idée nous est venue qu'elle se serait tuée, demanda paisiblement Raoul.
« C'est du moins ce que redoute sa pauvre sœur.
Elle aurait donc eu un motif pour se tuer ?
Peut-être.
Elle était fiancée et son mariage... » Raoul s'écria avec émoi. « Hein, quoi, fiancée? Elle aime quelqu'un ?»«
Oui, un jeune homme qu'elle a connu cet hiver à Paris, et c'est la raison pour laquelle les deux sœurs sont venues s'ensevelir au manoir. Le comte Pierre de Bâme habite avec sa mère le château de Bâme, dont dépendait jadis le manoir et qui est situé sur le plateau.
Tiens, on l'aperçoit d'ici.
Et il y a des obstacles au mariage ?»
La mère ne veut pas que son fils épouse une jeune fille qui n'a ni fortune ni titre. Hier matin, une lettre de Pierre de Bâme fut apportée à Catherine. Dans cette lettre, que nous avons retrouvée par la suite, il annonçait son départ immédiat. 6 mois de voyage que sa mère exigeait. Il s'en allait, désespéré, disait-il, et suppliait Catherine de ne pas l'oublier et d'attendre. Une heure après, c'est-à-dire à 10 heures, Catherine s'éloignait. On ne l'a plus revue.
Elle est peut-être sortie sans qu'on le sache.
Impossible. Donc tu crois au suicide ?
Béchoux répondit nettement.
Pour moi non, je crois au meurtre.
Diable, et pourquoi ?
Parce qu'au cours des recherches que nous avons effectuées, nous avons eu la preuve matérielle, visible, qu'il y a peut-être encore, dans le parc, c'est-à-dire dans l'enclos qui borde les murs, un bandit qui rôde et qui tue.
Vous l'avez vu ?
Non, mais il agit une seconde fois.
Il a tué ?
Oui, il a tué. Comme je te l'ai téléphoné hier, il a tué.
Hier, sous le coup de 3 heures, sous mes yeux, M. Guersin longeait la rivière et traversait le vieux pont vermoulu.
Halte !
Comment halte ? Mais je commence.
Arrête-toi !
Absurde ! C'est tout le drame que je vais te raconter, et un drame sur lequel nous avons une certitude, des faits.
Si tu refuses de connaître ces faits, comment veux-tu ?
Je ne refuse pas de les connaître, mais je refuse d'en entendre 2 fois le récit.
Or, comme tu les exposeras tout à l'heure à ces messieurs du parquet, lesquels ne sauraient tarder à venir, il est tout à fait inutile que tu t'épuises à me dire ce que tu diras sur place et avec commentaire.
Cependant,
non, mon vieux, il émane de toi, quand tu racontes une histoire, un ennui incommensurable. Laisse-moi respirer.
Alors ?
Alors fais-moi visiter le parc. Et surtout pas un mot durant cette visite.
Tu as un grand tort, vois-tu, Béchoux, tu es trop bavard.
Prends exemple sur ton vieil ami Lupin, toujours si discret, réservé dans ses propos, et qui ne jacasse pas à tort et à travers comme une pie.
On ne réfléchit bien que quand on se tait,
et qu'on se trouve en face de ses pensées, sans être importuné par des considérations oiseuses d'un hurluberlu qui enfile les mots les uns aux autres comme des grains de chapelet.
Béchoux songea bien que ce discours s'adressait à lui, et qu'il était l'hurluberlu qui jacassait comme une pie.
Cependant, comme il s'en allait bras dessus bras dessous, en vieux camarade qu'unissent une solide amitié et une naturelle estime, il demanda la permission de poser une question dernière, une seule question.
Pose. Tu répondras sérieusement.
Oui.
Eh bien, en bloc, quel est ton avis sur ce double mystère ?
C'est qu'il n'est pas double.
Mais si, il y en a 2.
D'abord la disparition de Catherine et ensuite l'assassinat de M. Guersin.
C'est donc M. Guersin qui a été assassiné ?
Oui.
Eh bien, cela fait un mystère.
Où est l'autre ?
Je te le répète, la disparition de Catherine.
Catherine n'a pas disparu.
Où serait-elle ?
Dans sa chambre, en train de dormir.
Béchoux regarda de côté son vieil ami et soupira.
Décidément, ce garçon ne serait jamais sérieux.
À ce moment, comme ils approchaient des grilles, ils aperçurent une grande femme brune, qui, ne pouvant sortir du domaine que gardait un gendarme, planté près de la grille, leur faisait signe de se hâter.
Béchoux s'inquiéta aussitôt.
« La femme de chambre de Bertrand de Guersin, » murmura-t-il.
« Exactement comme hier, quand elle est venue m'annoncer la disparition de Catherine. Qu'est-ce que ça peut bien être ?»
Et il s'élança, suivi de Raoul.
« Eh bien, Charlotte, qu'est-ce qu'il y a ?» lui dit-il en l'entraînant à part.
« Rien de nouveau, j'espère. »«
Mademoiselle Catherine, »
balbutia la bonne,
« c'est madame qui m'envoie vous prévenir. »«
Parlez donc, un malheur, hein ?
Au contraire, mademoiselle est rentrée cette nuit. »
Elle est rentrée cette nuit.
Oui, madame priait au chevet de monsieur quand elle a vu mademoiselle qui arrivait près d'elle en pleurant. Elle était à bout de force. On a dû la coucher et la soigner.
Et actuellement,
mademoiselle est dans sa chambre et dort.
Crebleu,
dit Béchoux en regardant de nouveau Raoul.
Crebleu, crebleu de crebleu.
Elle est dans sa chambre, elle dort, crebleu.
Raoul d'Avenac fit un geste qui signifiait
« Que t'avais-je annoncé ?
Quand donc admettras-tu une fois pour toutes que j'ai toujours raison ?»
Crebleu de crebleu, répétait Béchoux, qui ne trouvait pas d'autre mot pour exprimer sa stupeur et son admiration.